Attention, n'était pas telle. Qui suis-je pour vous parler? Je me reviens à cette parole de Saint Grégoire de Nice qui dit que quelqu'un qui s'élève ne cesse d'aller de commencement à des commencements par des commencements qui n'auront jamais de fin. N'est-ce pas ce que nous vivons nous-mêmes tous sur cette terre? Et je pense que chacune de vos journées de lourde cancer espérance est un nouveau commencement. Chaque matin est un commencement radical, plein de la grâce du Seigneur, qui ne cesse de nous visiter. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pourrions nous mettre sous ce thème de la visitation. Dieu a soif de nous rencontrer. Dieu a soif d'un nouveau commencement, pour que de ce nouveau commencement jaillisse une vie toujours plus profonde, parce que la vie, elle est là, mais elle peut toujours, étant plus profonde, jaillir encore plus fortement. Me présenter très brièvement, j'ai été pendant 15 ans religieuse, c'est une dimension qui m'habite très profondément, une vie très riche de la présence de cette amitié, de cette fraternité, ce qui est le cœur de Lourdes Cancer Espérance. J'ai ensuite fait des études d'infirmière qui m'ont amenée à travailler à la maison médicale Jeanne Garnier. Je me suis formée à la sophrologie parce que l'homme est tout un et on ne peut pas dissocier l'âme du corps et de l'esprit. Donc si je suis là, c'est parce que peut-être qu'on m'a connue à travers ce livre que j'ai écrit, « La mort est une affaire spirituelle ». C'est un livre dans lequel j'essaie de montrer, c'est un peu mon idéal de soignant, c'est bien d'avoir un idéal, comment on ne peut accompagner une personne de manière authentique si on n'intègre pas la dimension spirituelle, que cette personne soit croyante ou non. Et c'est très marquant de prendre conscience qu'on vient alors qu'une personne est terrassée par la maladie, véritable tsunami dans une vie, est en quête de repères. Et combien il y a un désir en elle qui est comme un travail spirituel, qui est un cri pour rechercher l'unité de son être, pour qu'on n'oublie jamais qu'elle est une personne, qu'elle a un désir de relation, un désir de réconciliation, un désir, une quête de sens, de transcendance. Et bien souvent, que de personnes font des vraiment comme une conversion, une retraite spirituelle dans ce moment qui les rapproche de la mort et qui, cette mort qui fait peur et qui pourtant, j'aime à dire que parler de la mort, ça ne la fait pas venir plus vite, mais ô combien elle donne une intensité de vie au quotidien extraordinaire. Et je pense au contraire que fuir la mort, c'est souvent se compliquer la vie. Nous pourrons y revenir si vous le voulez, mais ce n'est pas le thème de notre journée. Ce qui est important, c'est ce souffle de la rencontre. Comme soignant, j'ai moi-même à être attentive de ce qui m'habite, ce souffle en moi, pour pouvoir aller à la rencontre du souffle de celui que j'accompagne. Et il y a des kairos dans une vie. Et c'est à la mesure dont je suis toute écoute à l'autre, et je reviendrai plus longuement sur ce qui peut être cette écoute, cet accompagnement, plus je permets à l'autre d'advenir à ce qu'il est, je peux lui permettre de déposer son fardeau, de s'ouvrir de choses dont peut-être il ne s'est jamais ouvert, parce que c'est plus compliqué parfois à des proches de dire certaines choses. Et donc il y a ce souffle, et c'est de ce souffle à souffle que jaillit la vie. Je voudrais que nous prenions aujourd'hui le temps de voir ensemble comment la fragilité de l'homme, quelle qu'elle soit, parce que nous sommes tous fragiles. Donc la fragilité, elle est parfois visible, parfois elle est invisible. Mais je suis fragile, vous êtes fragile, nous sommes tous fragiles. Et c'est la beauté de la condition humaine d'ailleurs. Sans fragilité, il n'y aurait pas de relation. Donc quelle que soit cette fragilité, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, ou qu'elle soit d'un autre ordre, ça peut être une fragilité liée à une perte d'emploi, à un veuvage, à une précarité, voire même la plus grande des fragilités, à mon sens, la solitude. J'aimerais que nous voyions comment la prise de conscience de cette fragilité peut vraiment être un lieu privilégié de redécouverte de ce que nous sommes en profondeur, de ce qu'est l'homme dans le dessein bienveillant du Père, sur qui chacun de vous repose le regard bienveillant du Père. Et comment cette fragilité, c'est elle qui nous permet d'être encore plus vivants, notamment en nous faisant goûter plus pleinement l'instant présent. Et j'aime ce sous-titre de mon cancer espérance, vivre avec un cancer. Le cancer est là. Nous devinons ce que cela peut représenter. Et pourtant, cela n'empêche pas de vivre. Saint-Irénée dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » La gloire, quelle que soit notre fragilité, habite notre être jusque dans ses profondeurs. Avant toute chose, j'ai dit souvent avant toute chose, mais celle-ci, elle est vraie. Le titre qui nous est proposé, c'est dans notre quotidien, Allons vers l'espérance. Je pourrais faire une conférence rien que sur ce titre. Dans notre quotidien. Comment ne pas penser à cette prière du Notre Père qui nous appelle à demander chaque jour ce dont nous avons besoin, le plus intime de notre cœur. Chaque jour, c'est absolument essentiel. Comme croyants, nous acceptons d'être associés à Jésus, c'est-à-dire à nous laisser prendre par ce même mouvement de mort et de résurrection. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Dans notre foi, nous ne pouvons jamais séparer la mort de la résurrection, ni la résurrection de la mort. Parce que dans un cas, on est dans l'illusion d'un monde de bisounours, et dans l'autre, dans le pessimisme d'une tragédie où aucune lumière ne peut jaillir. La vérité n'est ni dans l'une ni dans l'autre. Dieu est là, même de nuit. Certains diront même surtout de nuit. Pensez à Saint Jean de la Croix qui a écrit son plus beau cantique, enfermé en prison. C'est souvent dans ce moment de la nuit où on est dépouillé de tout point d'appui que le cœur s'en remet davantage à celui qui est doux et humble de cœur, la source inépuisable de toute consolation, pas seulement la consolation humaine, cette consolation qui vient de plus haut, de plus profond, de toutes parts. Comme Jésus, nous cessons de passer par ces moments de mort à nous-mêmes, mais toujours pour ressusciter, de commencement en commencement. Et c'est bien le paradoxe des béatitudes, c'est bien le paradoxe de la fête de la croix glorieuse. Le paradoxe aussi de cet homme que j'ai bien connu, terrassé par la maladie de Parkinson, et qui reprenait ces paroles d'un moine russe qui disait « Je voudrais entonner un chant sur le monde. Oh, ce chant de larmes miraculeusement joyeuse. » Pourquoi joyeuse ? La douleur est là, l'incompréhension parfois, et même la révolte. Et nous avons droit à la révolte. Voyez ces psaumes dans lesquels la révolte monte jusqu'au cœur de Dieu. Les larmes sont là, mais elles sont déposées dans le cœur de Dieu. Parce que ce sont des larmes d'un être qui se reçoit d'un autre, qui se sait aimé, qui se sait être béni du Père, même lorsque Dieu semble silencieux. Ce sont les larmes d'un être qui sait que la vie éternelle est déjà commencée, que déjà nous sommes sauvés, et qu'à défaut de faire l'œuvre de Dieu, comme on pourrait le souhaiter par moments, il s'agit bien plus, dans la douceur de l'esprit, d'être soi-même l'œuvre de Dieu. Et en vous disant cette parole, je prends appui sur sainte Jeanne Jugan. Peut-être connaissez-vous Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui a porté ce charisme en elle et qui a été mise au rebut de sa communauté effacée de toutes. Elle a eu cette parole que dans notre vie, ultimement, il ne s'agit pas tant de faire ceci ou de faire cela. Il s'agit de se laisser soi-même façonner par Dieu, être soi-même l'œuvre de Dieu. Quelle belle vocation! Et plus l'homme est fragile, et j'allais dire plus naturellement, il peut se laisser façonner. Il n'a plus ses points d'appui habituels. Son seul point d'appui, c'est celui qu'il aime et continue de le façonner pour le transfigurer, pour le configurer toujours plus profondément à lui. Qui mieux que Jésus peut nous aider à vivre ses fragilités? Nous pouvons lui demander déjà maintenant la grâce de vivre dans ce dialogue intime et permanent avec lui. Vous savez, je pense à un ami qui a été touché par le cancer et qui me disait qu'il avait une chimio dans la même chambre qu'un autre. Et ils étaient séparés d'un rideau. Ils parlaient comme ça. Puis à un moment, ils se sont dit, allez, on enlève le rideau. Et cet homme était croyant, la femme à ses côtés ne l'était pas. Et à un moment, il lui a dit, au moins, mon meilleur pote, c'est Jésus. Et la femme a été un peu surprise, elle a accueilli. Il s'est trouvé qu'elle s'est trouvée mal, donc il a appelé les soignants. Et le lendemain, il a croisé cette femme qui lui a dit, surtout, hein, n'oublie pas de parler de moi à ton pote. Et cette femme est morte très peu de temps après. C'est vous dire la qualité de l'instant présent. Il y a des kairos dans nos vies. Il y a des moments à côté desquels on ne peut pas passer. Et pour cela, il est bon de se faire confiance. Vous savez, il y a cette intelligence du cœur qui nous habite, qui nous fait comprendre que là, il se passe quelque chose. Je me souviens d'une femme à Jeanne Garnier que j'accueillais. Et elle passait du brancard au lit. Et la première chose qu'elle me dit, c'est terrible ce qui m'arrive. Oui, c'est terrible. Venir à Jeanne Garnier, même s'il est bon de dire que certains peuvent repartir chez eux parce qu'il y a des temps de rémission, de stabilisation, mais il y a quand même du sens. C'est quand même un peu lourd de faire ses valises. Et en même temps, c'est un lieu de vie. Et quand cette femme m'a dit ça, je me suis dit, je peux à bon compte la rassurer en lui disant, ne vous inquiétez pas, ici c'est formidable, on est une équipe super, on va s'occuper de vous, et tout ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce que cette femme attendait à ce moment-là? Est-ce que j'étais pas plus centrée sur moi, ce que je voulais pour elle, sans être à l'écoute en profondeur de ce qu'il habitait? Et c'est alors qu'elle me dit tout son parcours du combattant, qui a été sa maladie. Et je lui dis, mais en quoi est-ce terrible? Qu'est-ce qui est terrible pour vous? Elle peut développer un petit peu les choses, et puis à la fin, elle me dit, et puis j'aimerais qu'on prie pour moi. Alors nous avons prié un Je vous salue Marie ensemble, et ce qui a été assez bouleversant pour moi, c'est de voir que quelques jours après, cette femme ne pouvait plus parler liée à sa maladie. Vous imaginez à nouveau ce kairos, l'importance d'une qualité d'écoute centrée sur l'autre. Cette femme, certes, a perdu la parole, mais elle a su qu'au moins à une personne, elle avait pu déposer son fardeau, elle avait pu dire son aspiration, et qu'elle s'est sentie accueillie dans cette aspiration. Il y a des kairos. Je me souviens encore d'un homme dont on m'a confié la toilette. Et comme je fais habituellement quand je ne connais pas bien la personne, je pose quelques questions sans être indiscrète. Et cet homme était couvert, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, de nodules, des petites excroissances sur le visage. Et il pouvait un petit peu se déplacer et je l'accompagne dans le cabinet de toilette et je l'aide pour la toilette. Et cet homme était couvert de la tête aux pieds. Et la toilette s'est passée en silence, parce que par moments, on sent que le silence est parole. Et vraiment, dans mon cœur, plus peut-être que pour dans certaines autres conditions, je ne sais pas, j'ai vraiment le sentiment que c'était le Christ dont je prenais soin, parce que son visage était défiguré. La toilette se passe, et avant qu'il ne revienne dans sa chambre, je croise son regard, qui était un cri de détresse, un cri de celui qui disait « Mais Qui es-tu, toi, pour prendre soin de moi, qui me donne à toi dans une telle apparence de déchéance, de corps qui se délabre ? Et dans la chambre, je me suis dit, je ne peux pas laisser cet homme avec ce regard plein de souffrance. Alors que faire ? Je le connaissais très peu. Et alors je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai dit à cet homme, vous savez, je ne vous connais que peu. Je ne veux pas être maladroite, mais je voudrais vous dire une chose. C'est que lorsque je prends soin de vous, c'est la beauté intérieure de votre être que je vois. Et vous êtes aussi beau aujourd'hui qu'il y a 3 mois où vous n'aviez pas une trace de nodule sur votre corps. Et je me suis dit, folie pour folie, je vais mettre un acte à ma parole, parce que ça peut être des paroles. Et je lui donne comme le baiser au lépreux, je l'embrasse sur la joue, sur un nodule. Et alors que je m'écarte de cet homme, je le vois littéralement fondre en larmes, avec un sourire jusqu'aux oreilles, me disant « c'est extraordinaire ». Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes, mais qui sont bonnes de dire. Et cet homme n'est pas resté parmi nous très longtemps, mais j'ai vu dans son regard qu'il savait qu'il était digne jusqu'au dernier souffle de sa vie, qu'il était digne d'un infini respect et que sa vie avait un prix mais immense. Et je pense que ces moments-là n'ont pas de prix. Et que quand je vous parlais du paradoxe des béatitudes, nous y sommes. Cet homme était d'une certaine manière crucifié par sa maladie. Il a été aussi transfiguré. J'ai rarement vu un visage aussi lumineux. Lumineux de quoi ? Lumineux de savoir que dans sa détresse, il y a plus grand. Il y a le regard d'un être qui se pose avec respect, avec délicatesse. Il nous renvoie à plus grand que nous-mêmes. Et les pères du désert disent souvent qu'il faut avancer à pas d'amour dans la foi. Oui, c'est ce que je nous souhaite. Chaque jour, avancer à pas d'amour dans la foi. La petite Thérèse disait que d'instant en instant, on peut beaucoup. Nous avons la grâce pour aujourd'hui. Et je pense que la sainteté, ça n'est rien d'autre que ce chemin, justement peut-être celui que nous n'avions pas prévu. Ça n'est rien d'autre que d'accueillir telle fragilité ou telle circonstance. La sainteté, ça n'est rien d'autre. C'est dire oui à ce qui se vit, pas d'une manière passive, parce que c'est très actif. Le consentement de la Vierge, le oui du Christ, c'est tout sauf du passisme, de la passivité. C'est un abandon actif. Qui d'entre nous peut dire qu'il est heureux de tout ce qui s'est passé dans sa vie ? Et pourtant, n'avons-nous pas fait l'expérience de choses dans un premier temps douloureuses, mais qui ont été source d'une fécondité, de rencontres que nous n'aurions peut-être jamais faites, en tout cas à un certain niveau de profondeur. Et je pense que parfois, éviter de se poser trop la question de savoir pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cette situation qui semble si injuste, permet de mettre notre énergie là où elle peut porter des fruits. Nous n'avons pas de réponse à pourquoi. La seule réponse que l'Église nous donne, c'est quoi ? C'est un Dieu vulnérable. C'est Jésus qui prend notre condition humaine jusqu'à mourir, jusqu'à subir l'agonie, la détresse. Et je pense que nous avons tous eu la chance de découvrir des êtres qui ont été durement éprouvés par la vie, et qui pourtant sont rayonnants d'une lumière et d'une joie toute surnaturelle. Quelle est la clé de ce bonheur ? Peut-être un cœur d'enfant retrouvé, parce que Jésus nous dit que seuls les enfants peuvent entrer dans le royaume de Dieu. De même, et je le dis très souvent dans mon livre, qu'il n'y a pas d'idéal de la bonne mort. Non, il y a un chemin unique pour chacun. Il n'y a pas d'idéal ou d'exemple pour tout le monde de la manière de vivre avec une fragilité, avec ma fragilité. C'est un chemin unique, une histoire unique. L'essentiel étant bien d'avancer humblement sous le regard de Dieu, à pas d'amour, dans la foi, parce que la vie chrétienne est une vie à 99% de foi. Mais la foi qui touche Dieu, c'est une vertu théologale, la foi. Elle nous met en contact direct avec Dieu. Donc, quand on est au fond du trou, poser un acte de foi nous relie à Dieu. C'est mathématique. On ne se trompe jamais en posant un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. À pas d'amour dans la foi, par-delà les ombres et la lumière, mais dans la confiance. Et cette dynamique, comme dans le rite, il est dit « allons vers l'espérance », elle peut se vivre à tout moment de l'existence, que l'on soit en pleine forme ou qu'on le soit alité ou en fauteuil roulant. Il s'agit d'une dynamique intérieure, de ce mouvement d'existence qui nous habite, de ce mouvement spirituel qui ne demande qu'à s'approfondir, dynamique d'un être de désir, un être de désir, avoir le désir de demeurer un être de désir, du désir de la vie. Comme le disait sainte Thérèse d'Avila, lorsque nous ne mourrons pas de mort, nous mourrons de vie. C'est un beau programme, que chaque instant soit un instant de vie. Et ce n'est pas parce que la mort se profile à moi que je ne vais pas vivre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez du témoignage d'un dauphine Julien avec sa petite Thaïs, où elle expliquait que le jour où ils ont appris le diagnostic de la maladie de Thaïs, c'était son anniversaire. Et le petit frère de dire « Mais c'est son anniversaire ou pas ? On le fait son anniversaire ou pas ?» Et les parents de lui dire « Mais tu n'as pas compris, on vient de te dire, ton frère, ta petite sœur est malade, elle va mourir. » Mais lui de dire « Mais oui, mais elle n'est pas morte aujourd'hui, c'est son anniversaire ou pas ? C'est la vie !» Et Anne Dauphine Julien de dire, mais voilà ce cœur d'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons à redevenir un enfant. Qui fait que la vie, elle est plénitude à cet instant. Et rien ne doit nous empêcher de goûter cet instant de douceur. Et ça a redonné un élan de vie, ce petit bonhomme, à ses parents, qui dépasse toute espérance. Il s'agit bien, comme le dit bien le cancer espérance, vivre avec le cancer. Et à défaut, vous le savez, cette maxime que l'on vit souvent à Jeanne Garnier, à défaut d'ajouter des jours à la vie, notre mission, c'est d'ajouter de la vie au jour. Et la vie, je peux vous dire que moi-même, aussi bien dans des lieux comme l'Arche de Jean Vanier que comme à Jeanne Garnier, rarement je n'ai perçu une telle intensité de vie. Là où on pourrait se dire c'est morbide, c'est atroce, mais pas du tout. Oui, on pleure, mais oui, on rit beaucoup aussi. Il y a un échange de vie extraordinaire. Je me souviens d'un homme qui est entré et qui a dit à sa femme, oh, tu sais, il avait 45 ans. On vient à Jeanne Garnier, mais je vais y mourir, n'en parlons pas, ça va aller très vite. Ils avaient deux enfants. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que il a vécu des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Et que ce qui devait durer une semaine a duré plusieurs mois. Et que petit à petit, cet homme a fait un cheminement qui l'a conduit à demander le baptême de son petit bonhomme de 6 ans. Je ne sais pas si vous imaginez l'intensité de vie qu'il y a eu dans cette chambre à partir du moment où cet homme, lui-même pas baptisé, s'est dit « Mais... Mon fils aîné est baptisé, lui ne l'est pas. » Vous voyez ce que ça représente dans la dimension du sens, de la transmission. Quand on traverse la maladie, tout ne s'arrête pas. Mais tout peut commencer. Et c'est peut-être parce que cet homme a vécu ce qu'il a vécu, qu'il a eu cet électrochoc intérieur de se dire « Le plus beau cadeau que je puisse faire à mon fils, c'est peut-être de lui permettre de recevoir le baptême. » Et vous auriez vu le témoignage même que cela fait d'Ange à Mernier le jour de la célébration du baptême. Tout le monde n'est pas forcément croyant, même s'il y a bien sûr une éthique, un humanisme extraordinaire. Et l'intensité qu'il y a eu à chercher un parrain, une marraine, comment préparer l'enfant, ça n'était plus la même chambre, ça n'était plus la même vie. C'était la vie de Dieu qui fait irruption là où on ne l'attendait pas. Cet homme ne pratiquait pas. Kairos de la vie de cet homme. Et c'est pour vous dire que quand j'ai revu sa femme quelques temps après, elle m'a dit, mais c'est bouleversant. Vous voyez, on comprend, parler de la mort, c'est pas toujours simple. Parfois on l'intègre. Mais finalement, l'intégrer, savoir qu'elle vient, permet de s'ouvrir à une dimension, à un essentiel assez étonnant. Et je pense aussi à cet homme qui écrivait à sa femme « Ces 10 mois de maladie, si pitoyable en apparence, avec ce corps qui fout le camp de tous côtés, à coup sûr, ce sont les 10 plus beaux mois de ma vie, les plus beaux de notre amour, jamais nous ne nous sommes tant aimés. Allons vers l'espérance. Cette espérance. Nous avons eu la joie de fêter Noël il y a encore peu de temps. Nous avons suivi l'étoile du berger. Nous avons tous notre étoile. Et nous allons bientôt fêter la fête de la présentation de Jésus au Temple. Vous connaissez sûrement, qui a lieu le 2 février. C'est une fête que j'aime énormément, peut-être parce que c'est la fête aussi des consacrés. Et je voudrais que nous comprenions en quoi cette fête vient enraciner notre espérance. Vous vous souvenez peut-être le vieillard Siméon, qui est un homme juste et pieux, sur qui reposait l'Esprit Saint. Il attendait la consolation d'Israël et on lui avait fait comprendre intérieurement qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ de Dieu. Et lorsqu'il reçoit l'enfant Jésus dans ses bras, il bénit Dieu en disant, c'est ce fameux Nunc Dimittis que vous connaissez peut-être, « Maintenant tu peux, Seigneur, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. » Siméon a vu son salut. Nous contemplons notre salut à chaque instant, à chaque Eucharistie, à chaque adoration. Et je dirais même en contemplant nos frères, parce qu'il y a le sacrement du frère qui est d'une force inégalable. Et cette amitié que vous vivez, cette fraternité bouleversante, vient de ce don le plus profond de l'un à l'autre. Et donc Siméon a vu son salut, l'espérance de son peuple. Et je ne sais pas si vous savez qu'à l'occasion de cette fête, la liturgie prévoit que, vous savez, il y a la bénédiction des cierges. Et la liturgie prévoit que l'on mette de côté ces cierges et que chacun des participants reparte avec ce cierge pour que, dans l'année qui suit, s'il venait à accompagner l'un ou l'autre de ses proches qui arrive à la fin de sa vie sur terre, parce que la vie éternelle commence, il puisse, dans cette espérance du salut qui nous est déjà donné au présent, déposer ce cierge auprès de cette personne, signe de l'espérance dans notre monde, signe du Christ qui est lumière de notre monde. Et finalement, nous comprenons alors comment nous passons de la présentation de Jésus au Temple à notre propre présentation au Temple du Ciel lors de la rencontre ultime avec le Seigneur. avec cette espérance même qui habitait le vieillard Siméon. Et cette liturgie nous montre comment nous pouvons apprivoiser cette idée de la rencontre, pas du tout de manière morbide. La mort peut venir pour moi, pour mes proches, c'est une réalité. Mais ça n'est pas triste. Ça n'est pas triste quand c'est vécu dans ce mouvement de mort et de résurrection, dans cette consolation de l'esprit qui repose sur moi. Et à la manière dont j'envisage la mort, j'envisage la vie. Et vous savez que parfois, des personnes malades ont besoin de parler à leurs proches de ce que leur corps leur dit. Une personne malade est à l'écoute de son corps. Et parfois, on veut se protéger, on n'ose pas dire à la personne. Et là, on ne prend pas toujours conscience de comment on peut compliquer son chemin. Et quand une personne pose une question en disant « Mais est-ce que je vais mourir ?» Vraiment, mon expérience montre qu'elle a la grâce d'accueillir la réponse, pour peu qu'elle soit dite avec délicatesse. Et je me souviens avoir été auprès d'un homme qui ne pouvait plus pour la première fois se mettre debout. Et il me dit « Roselyne, ça veut dire que je vais mourir ?» Il y avait sa fille adolescente dans la chambre. C'est difficile de répondre à cette question. Alors au début, c'est facile de dire « je ne suis pas médecin, je ne sais pas bien », mais bon, au bout d'un certain temps, il vous a quand même posé la question. Et finalement, je lui ai dit ben, « c'est vrai que votre état de santé, oui, nous mourrons tous, mais oui, la mort va venir, mais je ne peux pas vous dire quand. » Et je reverrai tout le temps cet homme se redresser dans son lit sur ses coudes et me dire « merci Roselyne, la vérité, ça libère. » Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que oui, c'est normal de vouloir se protéger, et on se protège peut-être soi-même, hein, en ne parlant pas de cette chose. Mais je me souviens d'une femme qui me disait, quand j'ai dit à mon mari, tu sais, je crois que je vais mourir, il m'a dit, non, t'inquiète pas, tout va bien aller. Et cette femme de me dire, mais quand il me répond ça, il ne sait pas à quel point il me laisse seule. Vous voyez donc, quel que soit notre état de santé, avoir cette maturité, cette prise de conscience que oui, d'avoir intégré que je vais mourir, ça permet peut-être d'en parler aussi avec celui qui a besoin d'entendre un mot sur ce qu'il vit. Et un homme malade, quand il rencontre un médecin, il n'a pas seulement besoin du médecin, il a besoin de l'homme derrière la blouse qui va l'accompagner sur un chemin. Sur un chemin qui va de commencement en commencement. Et je ne sais pas si vous savez que cette fête de la présentation de Jésus au temple s'appelle aussi la fête de la rencontre avec un grand R. Et peut-être pouvons-nous demander les uns pour les autres la fête, la grâce de vivre cette prochaine fête du 2 février comme une véritable rencontre, pour que chacune de nos rencontres avec Jésus tout au long de notre vie, nous prépare à la rencontre ultime. Le père Daniel Ange, je trouve, dit de manière admirable que notre vie, finalement, c'est un petit peu comme l'offertoire faite d'offrandes et de consentement avant la consécration totale qui est le moment de la rencontre. Vivre chaque instant de notre vie comme un instant d'offrande, comme le Christ, comme la Vierge. Le mystère du Verbe qui s'y fait chair est un mystère bouleversant, parce que Jésus partage notre condition d'homme jusqu'au bout. Il nous montre sa fragilité d'homme. Les évangélistes auraient pu se passer de nous décrire Jésus demandant la présence de ses disciples à ses côtés au jardin de Gethsémani. C'est vous dire combien la révélation ne nous fait pas envisager la mort comme un moment où, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, oui, la mort est tragique. Oui, c'est une violence, une séparation pas naturelle de l'âme et du corps. Et pourtant, nous savons, et c'est bien paradoxal, que bien souvent, l'homme qui est en pleine force, dans la pleine possession de ses moyens, je dirais même en pleine réussite, il est plus souvent en quête d'admiration, de superficialité. L'homme qui vit une situation de fragilité, il est en quête de communion, il est en quête de relation. Et j'irai jusqu'à vous dire que nous pouvons nous réjouir d'avoir tous, à un degré ou à un autre, une part de fragilité en nous. Et nier cette part de fragilité en nous, c'est passer à côté de la perle précieuse que nous sommes. C'est elle qui fait de nous des êtres de relation, conscients de notre condition de créature, conscients aussi parfois de notre impuissance à soulager l'autre, parce que nous ne sommes pas Dieu, et que cela nous remet, nous soignant en tout cas, à notre place de tentation de toute puissance. Nous n'avons pas à avoir de tentation de toute puissance. Mon expérience me montre que le corps, infiniment digne, respectable, est un lieu privilégié du spirituel, de cette profonde unité de l'homme, de corps, âme et esprit. Et toucher le corps de l'autre, c'est franchir une certaine zone d'intimité. Le corps, c'est la personne, et vous savez bien que je n'ai pas un corps, je suis mon corps. Et le Christ, il a tellement assumé notre condition humaine qu'à la résurrection, vous avez réalisé comment il se laisse reconnaître. Il ne se laisse pas reconnaître par la force de son être ou même la lumière. Il se laisse reconnaître par Thomas au travers de ses blessures en disant « Mets ta main dans mon côté, touche les plaies de mes mains ». Est-ce que vous rendez compte de la dignité de notre corps qui est telle que c'est dans ses blessures que Jésus se fait reconnaître à la résurrection? Jésus ne vient pas gommer la trace de ses blessures. Nous n'avons pas à mettre de côté ses blessures. Nous sommes notre corps. Bien plus, ses blessures, il en jaillit une fécondité. Voyez comment, sur la croix, le cœur transpercé du Christ, de ce cœur jaillissent les sacrements de l'Église, l'eau symbole du baptême, le sang symbole de l'Eucharistie. Il y a une fécondité liée à une blessure, et le Christ nous dit même, c'est de la blessure que jaillit la fécondité. Il y a un homme qui avait une poche et nous avions très peu de relations avec lui parce que tout allait bien. Il n'avait pas de douleur. Et à un moment, sa poche a fui. Ça a été un grand moment difficile pour lui, d'humiliation. Et c'est vrai que beaucoup disent, plus que la maladie, c'est la perte d'autonomie qui parfois peut être difficile. Et vous ne pouvez pas savoir comme le temps mis pour remettre cet homme dans la propreté, mais avec douceur, en prenant le temps, avec délicatesse. C'est ce qui finalement a permis à cet homme de me dire « mais c'est difficile parce que je n'ai plus de nouvelles de mon ex-femme et j'ai ma compagne et c'est compliqué ». Il a ouvert son cœur. Il est venu à me dire combien l'amour était essentiel dans sa vie. Et cet homme qui n'acceptait jamais ce soin que sont les massages, après avoir passé une heure et demie dans sa chambre parce qu'il y avait beaucoup de soins, bien repositionner sa poche, avait intégré sa compagne pour lui demander comment elle faisait, pour que ça ne fuit pas, etc. Je dis à cet homme, et j'étais sûre de sa réponse, comme quoi il ne faut jamais projeter les choses, je ne vous propose pas un massage. Eh bien, si au moment où il avait vécu ce moment de démaîtrise, de dépossession de lui-même, parce qu'un soin qu'il faisait lui-même, il voyait qu'il ne pouvait plus, c'est à ce moment-là que cet homme me regarde et me dit, ce serait de la gourmandise. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire que on ne perd pas son temps en portant attention à la dignité, parce qu'en portant attention à la dignité du corps, je porte attention à la personne elle-même. et que c'est au travers d'une poche qui a fui que j'en suis venue au plus profond de cet homme qui a pu déposer le lourd fardeau qu'il a vu. Et que finalement, même la communion avec la compagne, ça n'était plus le même homme vis-à-vis des soignantes. Et la compagne aussi, là où c'était assez neutre, c'est devenu une véritable communion dans cette chambre. Et c'est vrai que cette expérience de fragilité peut être une occasion de démarche spirituelle. Nous cheminons tous hein, sur un plan spirituel dans notre vie. Mais c'est vrai qu'il y a différentes strates qui font que parfois ça reste caché. Et qu'il y a des occasions où nous pouvons approfondir cette dimension. Et nous pouvons approfondir cette quête d'intériorité. Vous savez, c'est Bernanos qui disait que la civilisation était comme une conspiration contre toute espèce de vie intérieure. Trésor de notre vie intérieure. Et dans ce sens-là, il y a un proverbe indien que je trouve très éclairant, qui explique qu'il y a 4 âges dans la vie. Il y a le temps de l'apprentissage. Le deuxième, c'est celui de l'enseignement, du service de l'autre. Ensuite, il y a celui du sous-bois qui nous emmène à la forêt, où là, l'âme peut prendre le temps du silence, de la réflexion, de la remise en cause parfois. Et puis ensuite, il y a l'étape suprême, peut-être la plus essentielle, qui est celle d'une personne en fin de vie, qui est celle de l'apprentissage du fait de mendier. Et là, comment ne pas penser au Christ qui, sur la croix, mendie notre amour ? J'ai soif. Et c'est vrai que mendier, on n'aime pas trop, hein, dépendre de l'autre, avoir à demander, c'est la plus grande pauvreté. Et finalement, cette étape du sous-bois qui nous emmène à la forêt où on prend le temps du silence, on peut dire qu'on est amené à le vivre à chaque fois qu'on traverse une fragilité, mais aussi plus couramment quand on veut faire tout simplement le point, on fait une retraite spirituelle, et je nous encourage à vivre ces temps le plus régulièrement possible. Parce que finalement, ça nous invite à revenir à l'essentiel et à comprendre que dans nos fragilités, plus nos forces humaines diminuent, plus il y a une intensité de vie qui peut jaillir. Et je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Michel Delpech, qui a vécu une vraie conversion avant de mourir, et qui a écrit « La maladie vous dépossède et vous dénude, ô combien ! Elle vous contraint à vous interroger sur les vraies valeurs, sur l'essentiel. Nous voulons toujours plus. » Mais je constate souvent, chez ceux qui possèdent le moins, un sourire plus radieux que chez ceux qui ont tout. Trop bête. C'est quand ça ne va pas que l'essentiel ressurgit. Et quand nous accompagnons des personnes, nous sommes là pour tout sauf pour faire la morale. Et je me souviens qu'un jour, j'accompagnais un prêtre qui était d'une tristesse. J'en étais presque malade. Pour lui, je me sentais impuissante. Et pourtant, qui suis-je pour aller dire ceci ou cela ? Et finalement, je me suis dit, me parle avec ton cœur. Et avant de refermer la porte de sa chambre, je lui ai dit, vous savez, Père, moi, je voudrais vous dire une chose. Il m'est arrivé de vivre des moments difficiles. Et il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup aidée. C'est une phrase du cardinal Journet qui disait à des religieuses « Si le Seigneur nous donne encore un jour de vie, c'est qu'il attend encore de nous ici-bas un acte d'amour. » Après, voilà, on dit, puis la personne prend ou elle ne prend pas. Et j'ai été très touchée de voir cet homme, peu de temps après, me montrer un livret qu'il écrivait régulièrement à ses proches, disant « Ben voilà une parole. » qui a été une lumière pour moi. Voyez Jésus qui a soif de notre amour, prend le temps de la réflexion pour se dire que chaque jour, quel que soit mon état, le Seigneur attend de moi un acte d'amour. C'est vrai qu'il faut parfois un long chemin pour arriver à trouver du sens à ce que je vis, parfois à la souffrance. Mais ce que je voudrais vous dire, et ça me semble très important, c'est que ce qui donne sens à la souffrance, ça n'est jamais le fait de souffrir, absolument jamais. Mais c'est la façon de continuer à aimer au cœur de cette souffrance. Ce qui donne sens à la souffrance, c'est ce qui donne sens à la vie, c'est de rester en relation, de continuer à demeurer ouvert, d'éviter cette fermeture du cœur. L'amour, vous me direz, elle ne supprime pas la souffrance, c'est vrai. Mais elle empêche le mal d'étendre encore plus ses ravages. Je voudrais terminer en donnant quelques exemples sur l'importance de la rencontre. L'écoute vraie est indispensable, et l'écoute vraie dans toute rencontre. Elle repose sur cette dimension essentielle que je ne sais pas. Jamais nous n'avons besoin, quand nous rencontrons quelqu'un, de quelqu'un qui se place au-dessus de moi, qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Jamais. Et il y a une forme de renoncement à une toute-puissance. Écoutez, c'est vraiment accepter de ne pas connaître l'autre tant que lui-même vient se révéler à moi. Un exemple, en dehors des soins palliatifs, il y avait une femme qui, dans un colloque, donnait une conférence, une femme de haut niveau. Et à la fin, il y a une femme avec des cheveux blancs qui vient vers cette oratrice et qui lui demande si son fils peut venir lui poser une question à cette femme. Elle se dit que le fils devait être adulte, elle ne comprend pas bien. Elle lui dit, mais d'accord, faites-le venir. Et c'est alors que l'oratrice voit venir un homme atteint de trisomie 21. Et elle était étonnée que cet homme soit à ce colloque. Et tout d'un coup, vous comprenez comment dans son esprit, elle n'est plus la conférencière qu'elle était 2 minutes avant. C'est le cœur de cette femme qui se réveille. Elle est celle qui ne comprend pas. Et c'est alors que cet homme arrive auprès d'elle et il lui dit ces paroles incroyables. « T'étais là et j'étais là, c'était bien. » C'était bien. Et ce fut un moment de pure présence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un moment où l'autre vous regarde de façon si profonde qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacrement du frère. Il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers ce regard. Et quand Jésus regarde, il aime. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Maximilien Kolb, avant d'être fusillé, les SS lui demandaient de ne plus le regarder comme ce regard. Il ne supportait pas ce regard de compassion. Un regard qui évangélise, la qualité d'un regard qui se pose. Et je pense à cet homme qui avait des nodules. Il a fallu juste un instant où un regard croise un autre regard. Il ne se dit pas, ben oui, je passe à autre chose. Non, un regard, il dit quelque chose. Et la vraie présence, elle repose aussi sur un renoncement à la toute-puissance. Encore un exemple dans un tout autre domaine. Il y a une femme qui était toute petite et qui travaillait en psychiatrie, dans un service assez dur, où les patients, des hommes, étaient assez raides, assez agités par moments, parfois même violents. Et quelqu'un lui a dit, mais comment faites-vous si petite et fragile pour travailler dans un tel service? Et elle répond, quand un homme particulièrement costaud arrive dans le service et que le personnel ne parvient pas à le maîtriser, eh bien c'est moi qu'on envoie. On lui dit toute seule, elle dit oui. Parce que quand il me voit, il n'a tellement rien à craindre de moi. Il pourrait facilement me réduire en miettes, qu'il s'arrête de s'agiter, et on peut parler. Vous voyez, parfois il y a des exemples qui en disent beaucoup plus que des belles phrases un peu théoriques. Ce que la force ne peut pas, parfois la fragilité le peut. Elle est présence sans menace pour l'autre. Là, on entre vraiment dans un autre monde, hein, celui de l'être avec l'autre. Rejoindre l'autre, c'est vraiment se mettre sur un pied d'égalité et se dépouiller de tout ce que je suis, de tout ce que je sais, pour aller à l'essentiel. Parfois, je me rends compte que le simple fait d'être en bonne santé, de se tenir debout, c'est pas facile pour une personne qui est alitée ou qui est malade. Avoir conscience de ça, s'asseoir, ça coûte pas beaucoup. Et ça permet déjà une réciprocité. La relation, elle s'établit lorsque j'ai en tête que l'autre puisse être totalement lui-même quand je le rencontre, à partir d'un respect très profond. Et c'est vrai que là, j'ai en tête un exemple de Jean Vanier sur la rencontre qui est assez radicale, mais qui est très très parlant. Où il a cet exemple après le témoignage d'une responsable de l'Arche qui était en Australie. Et avant de venir à l'Arche, elle travaillait avec des gens qui étaient dans le monde de la prostitution. Elle avait accompagné parfois un jeune homme, et un jour, elle va dans un parc de Sydney. Et il était en train de mourir d'une overdose. Elle s'est agenouillée, et elle l'a pris dans ses bras. Et les dernières paroles de ce jeune homme à cette femme a été « Tu as toujours voulu me changer, tu ne m'as jamais acceptée comme je suis. » Ça a été très difficile pour cette femme, elle a eu l'humilité de s'en ouvrir à Jean Vanier. Mais c'est ô combien enrichissant de se dire que lorsque l'on rencontre l'autre, bien souvent, on cherche à faire ceci ou cela. On a des bonnes idées pour l'autre. On voudrait lui proposer ceci ou cela. Mais avec toutes ces bonnes intentions et ces bonnes idées, on passe à côté de la rencontre. Et Jean Vanier dit très souvent que tant qu'on cherche à faire quelque chose pour l'autre, on ne le rencontre pas vraiment. Finalement, dans la rencontre, ce qui est important, c'est que l'autre prenne conscience qu'il a de la valeur, qu'il est important, et que je peux être un relais de plein de choses pour lui, mais de choses qui viennent de lui. La réciprocité est excessivement importante. Vous savez, dans le monde soignant, on nous dit tout le temps « juste distance ». J'aime pas tellement ce mot, parce qu'il y a la distance. Moi, je parlerais de juste proximité. Bien sûr, il ne faut pas être dans la fusion. Mais les personnes, elles ont besoin aussi bien de ma compétence d'infirmière ou de médecin que de mon cœur. Et il y a une intelligence du cœur. Et combien de soigneurs, de patients, de personnes malades ont dit, et je me souviens d'une un jour qui m'a dit, il y a un bénévole qui est venu auprès de moi. Il s'est confié à moi et j'ai osé lui parler. Vous voyez le renversement. Il ne s'agit pas de se confier en disant tous ses malheurs et en faisant porter tout le poids du monde. Mais c'est le petit truc qui fait que c'est une personne qui parle à une personne. Ce n'est pas une personne en pleine santé qui parle à une personne qui est en moins bonne santé. Ça n'est pas la question. Et je me souviens qu'un jour, j'ai eu une lumière, je me suis dit, mais en quittant au service, j'ai envie de faire comme si je n'avais plus ma blouse d'infirmière. Et je vais aller dire au revoir à chacun, en sachant que s'il y a quoi que ce soit, c'est plus moi qui m'en occuperai, je passe le relais à l'équipe d'après. Vous ne pouvez pas savoir comme ça a transformé la relation à la personne. Et une fois, lorsque je suis rentrée dans la chambre d'un patient, il y avait sa famille, ce patient a dit « Ah, ça c'est l'infirmière qui ne part jamais sans me dire au revoir. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste qu'ils ont compris que Là, je ne me situe plus comme infirmière et comme lui malade. Je me situe comme une personne, Roselyne, qui a son histoire, qui vient dire au revoir à Bernard, qui a son histoire aussi. Et je trouve ça aussi respectueux de lui dire « je vous dis à demain » ou au contraire à la semaine prochaine. On sait où on en a, où on en est. C'est compliqué pour des patients de voir les soignants tourner, de dire « ça va être qui demain ?» Il y a des affinités, il y a du... Voilà, c'est un signe de respect, de dignité. La temporalité, on est dans un monde où tout va super vite. Prendre le temps d'aller au rythme de l'autre. Je me souviens d'une femme à qui on essayait de faire coter, vous savez, sa douleur, entre 0 et 10, elle est à combien. Et j'ai été émerveillée, c'était une équipe mobile, de la manière dont ces soignants ont pris le temps. Et cette femme, vraiment, c'était long. Hein. Et Dieu sait que je connaissais cette femme, j'avais beaucoup d'amitié pour elle, mais à un moment, je me suis dit... à nous dire un petit peu, et puis elle disait mais c'est difficile, je sais pas, et puis pas toujours, et parce qu'on lui a laissé le temps, elle a fini par dire mais vous savez au fond il y a toute cette douleur, mais il y a la douleur morale aussi. On avait laissé à cette femme le temps de dire quelque chose d'essentiel sur sa manière de vivre sa maladie, et on peut traiter la douleur au maximum. Si on ne vient pas aussi traiter la manière dont on vit cette douleur et cette maladie, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. L'importance de libérer la parole, je vous l'ai dit aussi. Oser répondre à une question qui nous est posée avec délicatesse. C'est un devoir de charité. L'importance du regard. Une personne qu'on ne regarde plus, ne se regarde plus elle-même. Prendre le temps de regarder, c'est permettre à la personne de faire l'expérience de sa dignité. L'importance du toucher. Le toucher, c'est comme une sécurité. Le pape François en a remarquablement parlé du toucher. Il y a une façon de toucher, de parler, de regarder, qui fait que l'homme se sent sécurisé, se sent aimé, se sent respecté. Et enfin, cette grâce immense d'un moment que l'on traverse tous de fragilité, c'est celui de se dire, de ne pas remettre à demain ce que je peux vivre aujourd'hui. Ça n'est jamais de perdre du temps que de dire « je t'aime » à ceux qu'on aime, que de dire « merci » à ceux à qui nous avons envie de dire « merci ». Et le père Daniel Ange disait, si on veut mourir réconcilié, il ne faut pas s'y prendre trop tard. En tout cas, pour ce qui revient de nous, parfois dans une démarche de pardon, on est un maître de l'autre. Mais de ce qui se passe dans mon cœur, je me souviens d'une femme à Jacques-Garnier me disant, « Oh Roselyne, vous avez une petite pensée pour moi cet après-midi ? J'accueille ma belle-fille, on s'est raté toute notre vie. » Et ben voilà, c'était le lieu de la réconciliation. Et vous voyez comment ces moments de fragilité ouvrent des perspectives bouleversantes. Je terminerai sur un homme musulman qui venait en répit, il avait la maladie de Charcot, qui était professeur de philosophie en Algérie, qui parle de ses amis d'enfance, il parle d'un ami chrétien. Puis à un moment, je lui pose juste la question s'il avait déjà pensé au baptême. Et il me répond, j'y songe. Il parlait déjà beaucoup plus lentement. Eh bien, sa maladie était le lieu où Jeanne Garnier même était le lieu de rencontre avec son Seigneur, parce qu'il a véritablement fait 3 songes à Jeanne Garnier qui l'ont amené dans un cheminement qui a fait qu'il est reparti avec son baptême, avec son épouse. Il a reçu la grâce du baptême. Qui aurait cru qu'il aurait vécu ce bouleversement intérieur? Et vous voyez, si je termine par cet exemple, c'est juste pour vous dire que parfois, on a peur d'être maladroit quand on est auprès de quelqu'un qui est malade, qui est fragile. Je pense que de poser une question, ça n'est jamais faire irruption ni violer l'intimité de l'autre, pour peu qu'on soit attentif à la réponse. Cet homme aurait dit non, j'ai jamais pensé, je serais passé à autre chose. Il se trouve que cet homme m'a dit « Vous êtes la première à m'avoir posé la question. » Comme si le simple fait de poser une question lui ouvrait des horizons en disant « Mais en fait, je me l'interdisais par principe en disant « C'est pas pour moi. » Pourquoi c'était pas plus pour lui que pour un autre ?» Vous voyez, je me souviens d'un jeune qui avait 24 ans. Il était d'une tristesse. Et à un moment, je lui ai dit « Écoute, Michael, tu sembles triste. Est-ce que dans l'équipe, on a fait quelque chose qui n'a pas été, est-ce qu'on a été maladroit? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Et il me dit « Non, je suis triste parce que je vais mourir. » C'était la première fois qu'il avait pu déposer ce mot depuis sa maladie. C'était un jeune qui avait rompu avec sa famille à son adolescence, qui retrouvait sa famille au moment de sa maladie. Et tout cet échange nous a permis d'aller un peu plus loin et ça a rétabli la relation et la parole avec sa famille. Et il m'a posé des questions sur la vie éternelle, sur après la mort. Et du coup, il a demandé à ses parents comment ses grands-parents étaient morts, où ils étaient enterrés. L'attention à l'autre permet de délier la parole. Et de délier la parole, c'est une relation qui se vit à un autre niveau de profondeur. Et les parents qui étaient dans tous leurs états, à tourner en rond dans la chambre, parce que quand on sent que la mort va venir, on ne sait plus de quoi parler quand il n'y a plus les forces. Et le fait que leur fils ait pu parler de ça, ça a rétabli la parole en eux. Et oui, ça a été tragique. Oui, ce jeune homme est mort. Mais il est mort en disant ce qu'il souhaitait pour lui. Il est mort en s'intéressant à sa famille, en disant à ses parents ce qu'il souhaitait. Et ça change quand même une manière de vivre une réalité. Voilà, je pense avoir été peut-être un peu trop longue. Je m'en excuse si c'est le cas. Questions, vos remarques, et je vous remercie de votre attention.